Bon matin. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous autres ce dimanche matin. J'avais hâte de venir vous voir. Merci pour l'invitation. Pour toute plainte, vous allez voir Trevor de toute façon. C'est lui qui a fait l'invitation. Mais je suis vraiment content d'être avec vous autres. J'ai eu du bon temps ce matin. Quel texte que celui de Joseph. Ça me tentait de partir sur un autre message quasiment quand j'ai entendu ça ce matin, mais... Quand on lit l'histoire de Joseph, si on résume ça, c'est la souveraineté de Dieu dans le salut de l'homme. C'est pas compliqué. C'est le cas pour un peuple, mais c'est le cas pour nous autres aussi. Donc, on a eu du bon temps. Je vous invite à tourner dans le premier texte dans Matthieu 20. Matthieu 20. Et on va lire... jusqu'au verset 1 à 16. Matthieu 20, 1 à 16. C'est le Seigneur qui dit ceci. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent et il sortit de nouveau vers la sixième heure, vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils... reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Autre texte qu'on va lire ce matin dans 1 Corinthiens 15. Je vais te tourner dans 1 Corinthiens 15. Et le verset 8. 1 Corinthiens 15, 8, c'est Paul qui parle. Il dit ceci, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Vous savez, dès le moment qu'on se convertit, qu'on devient chrétien, on devient sujet tout à coup aux assauts les plus puissants, les plus subtils de celui qui est décrit dans la Bible comme étant le chef de l'autorité de l'air, l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, le Dieu de ce monde, Satan, le diable. Lorsqu'on se convertit, on devient tout de suite dans le camp ennemi de Satan. Et dans 2 Corinthiens 2, 11, sans tourner, on est invité à ne pas laisser Satan avoir l'avantage sur nous. J'aime bien la version d'Arby qui parlera de ne pas être circonvenu. Moi, je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire ce mot-là. Je suis allé voir dans le dictionnaire. Ça veut dire de ne pas se faire embobiner. Je trouve ça intéressant. On est invité par Dieu à ne pas se faire embobiner par Satan. Car, ajoute Paul, nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, je pense comme chrétien, il faut réaliser... Et je ne dis pas qu'on ne le sait pas, mais il faut réaliser que Satan existe, qu'il est là pour nous rendre la vie impossible à chaque jour. Si on devient chrétien, ce n'est pas l'évangile de prospérité, tout va bien aller, la vie est belle, je suis en santé, je vais avoir de l'argent, plus de conflits, mais c'est bien souvent. On tombe vraiment à contre-courant. Puis l'autre bord du courant, c'est Satan. T'sais. Et Satan est donc là pour nous rendre la vie impossible jour après jour. C'est son but. Il ne peut pas nous enlever de la main du Père, comme il était dit ce matin. Il ne peut pas nous ravir de la main du bon berger. On est sauvés pour toujours. Il ne peut pas nous enlever notre salut. Mais peux-tu nous rendre la vie misérable, pensez? C'est son but. Et alors, il faut être conscient qu'il a plus d'un tour dans son sac pour nous embobiner, pour nous amener à nous décourager, à nous déprimer, à nous rendre même dépressifs spirituellement. Et s'il y a une chose que Satan aime utiliser pour nous plonger dans un état de découragement, il peut servir d'abord de notre tempérament, parce que ça aussi, ça joue. Il peut servir de notre condition physique, hein, Satan, pour nous décourager, nous déprimer, nous rendre dépressifs. Mais ce matin, je vais vous emmener avec un sujet, les 20 regrets. Satan se sert des regrets de nos vies pour nous décourager, pour nous déprimer. Tu sais, les si seulement de notre vie. Hein. Si seulement, je pouvais recommencer. Si seulement. Avoir su. Et ça, lorsqu'on se laisse embobiner par Satan sur ses pensées, hein, avoir su, si seulement. Là, vous savez de quoi on peut se décourager assez vite, déprimer longtemps. Si seulement je pouvais recommencer, avoir su, si. Alors, si on veut être déprimé ce matin, c'est la recette. Commençons à penser ce qu'on aurait dû faire dans le passé, mais qu'on n'a pas fait. Commençons à penser ce qu'on a mal fait dans le passé. Et qu'on aimerait tellement refaire bien. Et le regret peut toucher à plusieurs choses dans nos vies. Hein, la façon dont j'ai traité mes parents quand j'étais jeune. La façon dont j'ai élevé mes enfants. Les paroles blessantes que j'ai pu dire. Le bien que je n'ai pas fait, les mauvaises décisions que j'ai prises, le temps que j'ai gaspillé, l'argent que j'ai gaspillé. Alors, vous dites de quoi? Il y a de la matière première dans nos vies, pas à peu près. En tout cas, il y en a dans la mienne, je n'en ai pas dans vos, pour les regrets. Mais s'il y a une chose que bien des chrétiens peuvent regretter, c'est justement d'avoir gaspillé une partie de leur vie avant de venir au Seigneur. Et ça, ça peut nous garder dans la déprime. Mais dans son livre sur la dépression spirituelle, Martin Lloyd-Jones, cet ancien médecin devenu l'un des plus grands prédicateurs des temps modernes, aborde le cas de ceux qui sont paralysés dans le présent parce qu'ils regardent au passé. Il y a tout ce temps passé à l'extérieur du royaume, ayant tardé à y entrer dans ce royaume. Pour Lloyd-Jones, c'est une cause extrêmement commune de la dépression spirituelle que d'être accroché au passé par nos regrets. Et je le cite, il dit ceci dans son livre, « Ces gens sont déprimés par le fait qu'ils ont gaspillé tellement de temps, gaspillé tellement de longues années, qu'ils ont été lents à devenir chrétiens. Ils ont toujours déploré le fait qu'ils ont manqué tellement d'opportunités, des opportunités à faire le bien, à aider les autres, des opportunités de service. Ils disent, « Si seulement j'avais vu tout ça quand j'étais jeune, je me serais porté volontaire pour le service, mais j'ai vu seulement ça maintenant et c'est trop tard, se disent-ils. » Des opportunités manquées et leur cri, c'est le suivant, « Si seulement je pouvais recommencer. » Et en passant, c'est la beauté de quelqu'un qui se convertit dans sa jeunesse. Je vois de la jeunesse dans la salle. Je ne parle pas d'André Thibault et de Jacques Duguay, mais il y a de la jeunesse dans la salle. Et c'est la beauté de quelqu'un qui se convertit dans sa jeunesse. Quelqu'un qui se convertit dans sa jeunesse s'épargne bien des regrets pour plus tard. Moi, quand j'ai confessé le Seigneur, ou j'ai connu le Seigneur ou l'Évangile à l'âge de 13 ans, puis j'ai donné ma vie à l'âge de 17 ans, donner véritablement ma vie au Seigneur à l'âge de 27 ans. Peux-tu vous dire que surtout en 17 et 27, il n'y a rien de glorieux que je pourrais vous raconter ce matin dans ma vie. Alors, si je voulais déprimer jusqu'à ma mort, je pourrais penser à ces 10 années particulièrement où j'ai gaspillé bien des affaires, puis j'en passe. D'où l'importance, si vous êtes jeune ce matin, donne-toi au Seigneur tout de suite. Donne-toi à 100%. Même si tu es sauvé, t'es peut-être sur le brique, t'es peut-être entre les deux. Alors, regarde, fonce. Ça, tu ne regretteras pas ça jamais. Mais Dieu, dans sa grâce, évidemment, m'a pardonné, mais quand même, il y a de la matière première dans ma vie là, à rester jamais sur des regrets du passé. Puis même, on peut dire, une fois sauvé, quel que soit l'âge, même dans notre marche chrétienne, il y a des choses que, Seigneur, hein, on n'a pas toujours été fidèle, on a fait ci, fait ça, mais Satan peut prendre ça et nous emmener à nous paralyser dans notre vie. Et c'est son but d'ailleurs. Alors, c'est la beauté de donner sa vie au Seigneur dès notre jeunesse pour s'éviter tant de regrets plus tard. Mais pour ceux qui sont venus au Seigneur plus tard, Ils peuvent déprimer en pensant à toutes ces années où ils ne croyaient pas et en regardant à toutes ces années passées dans le monde sans comprendre ces choses. Alors, ils sont remplis de regrets pour ce qu'ils auraient pu être, comment ils auraient pu avoir grandi en grâce et pour là où ils seraient rendus aujourd'hui. Ils regardent de cette façon en arrière, le regrettent, le déplorent. Puis ils regardent en arrière à toutes ces joies qu'ils auraient eues, à toutes ces années de joyeuses expériences qu'ils auraient pu avoir, mais c'est trop tard, les opportunités sont passées. Alors, pourquoi ont-ils été aussi insensés? Comment ont-ils pu être si aveugles? Pourquoi ont-ils été si lents? Ils ont entendu l'Évangile, ils ont lu de bons livres, ils ont même ressenti quelque chose à un certain point, mais rien n'en est sorti, l'opportunité s'est échappée. Et au bout du compte, ils ont compris, gloire à Dieu, mais aujourd'hui, ils sont peut-être obsédés par l'idée du « si seulement ». Si seulement. Maintenant, c'est vrai que toute personne qui est venue au Seigneur à l'âge adulte, à un certain âge, a parfaitement le droit de regretter le fait de ne pas avoir cru plus tôt. Et ce sont des regrets légitimes, ça. Mais là où ça devient mal, c'est d'en être misérable de ces regrets-là. C'est un fait que pour ceux qui sont venus au Seigneur tardivement, on ne peut regarder en arrière à notre vie passée sans voir des choses qu'on regrette. C'est inévitable, ça. Et c'est comme ça que ça devrait être, le fait qu'on regarde en arrière et qu'on regrette ça. C'est normal. Mais c'est justement là que la subtilité de cette condition arrive, c'est quand on traverse cette ligne fine de distinction qui existe entre un regret légitime sur ce qu'on aurait pu faire, dû faire, puis une mauvaise condition de misère et d'abattement dans laquelle me plongent mes regrets. Donc, il faut faire attention de traverser cette ligne. Puis Satan aimerait ça de nous faire traverser cette ligne-là pour nous paralyser dans notre vie. Restez jamais sur notre passé. Tu sais, c'est beau de se rappeler, tu sais, l'expression c'était donc le bon vieux temps. Ça, tu sais, mais c'est correct ça, de dire ça, mais faisons attention de ne pas être des nostalgieux. Là, tu sais, c'est pas un mot qui existe, mais je vous l'annonce ce matin. Là, tu sais, tellement jamais sur le passé, c'était donc le fun quand. Tu sais, ben oui, c'est plus là, on n'est plus quand si on est aujourd'hui. Tu sais. Puis on peut l'appliquer à des situations d'église, puis je ne vise pas votre église en particulier, ça peut être grand-mère, n'importe quelle église, hein. C'était donc le bon temps quand on avait tant, puis tel. Faisons attention de devenir des nostalgieux, se laisser paralyser par des regrets. Alors, comment on peut éviter de se sentir misérable et abattu par rapport à nos regrets du passé? On va trouver ça en considérant ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens 15. Et aussi, ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 15, le court passage qu'on a lu par rapport à Paul, c'est une parfaite illustration de ce que notre Seigneur a enseigné dans la parabole de Matthieu 20, versets 1 à 16, où des ouvriers dans une vigne ont été embauchés à différentes heures du jour, et certains même tardivement, à la 11e heure. Et donc, on doit le regarder du point de vue des gens qui ont été engagés à la 11e heure, qui étaient les derniers à entrer dans le royaume. Mais avant de traiter spécifiquement de cette question des regrets à partir de ces deux textes-là, on va le considérer d'une façon plus générale, la question des regrets. D'ailleurs, peut-être une application pratique, peut-être vous allez avoir regretté de m'avoir invité un matin, vous allez voir c'est quoi un regret. Mais il y a certains principes que je veux voir avec vous ce matin avant de rentrer dans le texte. Certains principes, qui relèvent du sens commun, qui relèvent de la sagesse générale, qui ont besoin d'être appliqués à cette condition. Vous savez, il y en a qui pensent que c'est mal pour un chrétien de se servir de sa tête. Il y en a qui pensent que c'est mal pour un chrétien de se servir du sens commun. Tu sais, il y en a qui pensent qu'on devient chrétien et on est des lobotomisés, des infirmières dans la salle. En tout cas. On subit une lobotomie, tu sais, on n'a plus de cerveau, on ne réfléchit plus. Tu sais, c'est sûr que le monde pense ça, qu'on est décapoté, c'était dit ce matin, quand on vient au Seigneur. Il y en a qui pensent qu'on se fait laver le cerveau, on se fait laver le cœur, c'est ça la différence. Puis on se fait renouveler l'intelligence, c'est ça, être chrétien. Mais quand on devient chrétien, on ne perd pas notre sens commun qui est généralisé dans l'humanité. C'est ce que j'appelle le GPS. Tu sais, mon auto n'a pas le GPS, mais tout le monde devrait avoir un GPS, un gros bon sens. Alors, quand on devient chrétien, on ne perd pas le GBS, on ne perd pas le gros bon sens qui appartient à chaque être humain. Alors, certains semblent penser qu'ils doivent toujours faire toutes choses d'une manière exclusivement spirituelle. Tu sais, hier, je m'en vais faire mon vélo, puis là, je suis pas en train de dire, vous allez penser, quel athlète, moi, je pense pas tout. Je fais à peu près quelques kilomètres, toujours les mêmes kilomètres, sa petite piste cyclable, puis je fais un aller-retour, puis bonsoir, là, tu sais, avec un vieux vélo, courtoisie de la famille Chouinon, je vois ce matin, en tout cas. Alors hier, je suis allé me promener, puis il faisait beau, puis là, rendu à mi-chemin, là, je te vois les nuages, mon ami, tu sais. Là, je suis venu sur le bord de prier, Seigneur, protège-moi de l'orage. Mais en étant, je suis venu sur le bord de prier ça, puis tout à coup, je revirais de bord. Ça. Parce que là, à un moment donné, tu sais, le gros bon sens commandait que je revire de bord. Puis j'ai bien fait parce que ça a tombé pas à peu près après. T'sais, dans le sens que, tu sais, c'est pas toujours des affaires spirituelles. On n'a pas toujours à prendre des grandes décisions spirituelles. Puis, non, c'est le gros bon sens, toute ta tête, à un moment donné. C'est sûr que j'avais continué, mais ça fait poivrer, j'aurais beau prier 15 fois. Mais servons-nous de notre GBS. Et donc, puis, le chrétien n'est d'aucune manière inférieur à l'incroyant. Comme je dis, lorsqu'on devient chrétien, on ne devient pas crétin. On a encore le GBS avec nous autres. Alors, on doit appliquer le sens commun, le gros bon sens aux situations. C'est correct et légitime comme ça. Comme je dis, parfois, certaines personnes prient au sujet d'une situation au lieu de faire quelque chose qui est évident du point de vue du gros bon sens. Alors, quand on vient au Seigneur, bonne nouvelle ce matin, on ne perd pas notre intelligence. On peut se servir de notre tête encore. Puis même, on en gagne de l'intelligence avec le Seigneur. Et on ne perd pas de notre gros bon sens, on en gagne. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par rapport au sujet des regrets? Où je m'en vais avec ça? Premièrement, la première chose que je dois me dire et dire à ceux qui vivent des regrets peut-être ce matin même, pour différentes raisons dans vos vies, c'est la suivante, et vous allez voir, ça relève du gros bon sens. La première chose que je dois me dire si je vis des regrets ce matin, c'est être misérable au présent à cause d'un échec du passé, c'est une pure perte de temps et d'énergie. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est le gros bon sens, par contre. Être misérable au présent à cause d'un échec du passé, c'est une pure perte de temps et d'énergie. Le passé, on peut pas le ramener, le passé, on s'entend dessus ce matin. Puis ça, là, pas besoin d'être chrétien pour savoir ça, le non-chrétien, c'est ça aussi que ce qui est fait est fait. Alors, ça relève du gros bon sens. Pourquoi se mettre à être poigné avec mes regrets alors que je sais que je ne peux pas ramener le passé? Ça relève du gros bon sens. Pas besoin d'une grande révélation chrétienne spéciale pour le démontrer, parce que le monde, dans sa sagesse, nous le dit que ce qui est fait. Alors, pourquoi un chrétien devrait-il être plus insensé que n'importe qui d'autre puis se mettre à être poigné avec ses regrets? Pourtant, il y a quand même certains chrétiens qui le font, ils ne sont jamais avec le passé, ils ne sont jamais avec les regrets du passé. Alors, ils perdent beaucoup de temps dans ce temps-là, ils perdent beaucoup d'énergie dans des vains regrets, d'où le titre de mon message, au sujet de choses qu'ils ne peuvent changer, ne peuvent défaire une chose. Alors, c'est purement fou et irrationnel de se mettre à regretter des choses. On parle des regrets, évidemment, qui nous paralysent. On ne parle pas des regrets qui nous amènent à la repentance. Ça, c'est légitime. Alors, on va établir ceci comme principe. Là, vous savez, on n'est même pas rentré dans les textes, on parle du gros bon sens. Mais je pense que c'est important de se rappeler ces affirmations-là. On ne doit jamais une seule seconde s'inquiéter à propos de quoi que ce soit qui ne peut être affecté ni changé par nous. Ça relève du gros bon sens. C'est une pure perte de temps. Si tu ne peux rien faire à propos d'une situation, arrête d'y penser. Il me semble que déjà, ça me soulage. Ça, c'est vrai. Pourquoi je m'en fais tant que ça avec mes regrets du passé? Plus jamais ne regarde à ça, plus jamais ne pense à ça. Puis si tu le fais, c'est le diable qui est en train de te défaire. C'est pour ça que j'ai mis en introduction ce combat spirituel. Le diable, lui, aime ça, nous ressasser hein, les choses du passé, puis nous rester jamais avec ça. De vagues regrets inutiles doivent être rejetés comme irrationnels. Arrête de t'accrocher à eux. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, tout simplement. On va aller plus loin. Une autre affirmation importante, c'est que s'accrocher au passé ne fait simplement que causer de l'échec dans le présent. Alors, non seulement on ne peut pas refaire le passé, mais quand je suis en train de me morfondre sur mon passé, je suis en train de scraper mon présent. Ça aussi, ça relève du gros bon sens. Il faut besoin d'une grande révélation chrétienne pour ça. Pendant que tu es assis à déplorer le passé, à regretter toutes les choses que tu n'as pas faites, tu te paralyses toi-même et tu t'empêches de travailler dans le présent. Et ça, c'est pas le christianisme qui dit ça, c'est le gros bon sens. Même le monde le dit que ça ne donne rien de rester accroché au passé. Alors, plus forte raison, les chrétiens, c'est pas nous autres l'idée de rester poignés sur notre passé, puis nos regrets, puis ses dons de valeur, puis avoir su, puis si seulement, puis t'as donc le bon temps, puis etc. Donc, faisons attention de faire pire que le monde, au niveau du gros bon sens. C'est toujours mal que d'hypothéquer le présent par le passé. C'est toujours mal que de permettre au passé d'agir comme un frein sur le présent. Alors, laissons le passé mort enterrer son mort. Il n'y a rien qui soit plus répréhensible, encore là, selon les courants de pensée commun, que de permettre à tout ce qui appartient au passé de te causer d'être un échec dans le présent. Et c'est ce que fait cette préoccupation morbide du passé. C'est de scraper ton présent. Alors, au lieu de vivre dans le présent, d'aller de l'avant avec la vie chrétienne, certains sont assis à déplorer le passé. Ils sont tellement désolés au sujet du passé qu'ils ne font rien dans le présent. Quelle erreur! Et bien souvent, on regarde des chrétiens qui ralentissent leur course de vie chrétienne, c'est que bien souvent, ils sont jamais par des choses qui sont passées. Toujours d'un point de vue du sens commun, du gros bon sens, une troisième chose qu'on doit réaliser par rapport au regret, c'est la suivante. Si justement tu déplores vraiment que tu as perdu autant de temps dans le passé, la chose à faire, c'est de compenser dans le présent. Alors d'un côté, ça ne donne rien de rester accroché au passé, tu scrapes ton présent, puis si effectivement tu as tant de choses à regretter dans ta vie, mais là, c'est à plus forte raison, là, c'est le temps de compenser aujourd'hui. Puis sur l'accélérateur, en avant, let's go. Ça fait du bon sens. Tu sais, quelqu'un qui se plaint dans le genre, si seulement tout ce temps que j'ai perdu, on peut lui poser comme question, qu'est-ce que tu fais pour compenser le temps perdu aujourd'hui? Pourquoi gaspilles-tu cette énergie à me raconter ton passé que tu ne peux pas refaire ni défaire? Pourquoi ne mets-tu pas ton énergie dans le présent? Puis, Martin Lloyd-Jones, dans son livre, c'est intéressant, il va dire, la dernière chose qu'on doit faire avec du monde comme ça, qui s'apitoie sur leur passé, c'est de sympathiser avec eux. Ouvre-toi. Non, regarde, wake up, tu ne peux pas refaire le passé, tu scrapes ton présent, puis justement, vu que tu as tellement scrappé ton passé, compense, let's go. C'est la beauté de la vie chrétienne, chaque jour est un jour nouveau. C'est la beauté, ça. Alors, Martin Lloyd-Jones dira ceci, si tu souffres de cette condition, prends-toi en main, examine-toi d'un point de vue du sens commun, du gros bon sens. Tu agis comme un insensé, dira Lloyd-Jones, tu es irrationnel, tu perds ton temps, ton énergie, tu ne crois pas vraiment ce que tu dis. Si tu déplores un passé gaspillé, compense pour ça dans le présent, donne-toi entièrement à vivre dans le moment présent. Et regardez ce que Paul fait dans notre texte d'1 Corinthiens 15, ce qu'on a devant nous. 1 Corinthiens 15, regardez ce que Paul va dire au verset 8. Il va dire, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Et là, « Après eux tous », dans le contexte, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 15, c'est le texte de la résurrection. C'est ça le thème du chapitre. Et les versets juste avant, on ne prendra pas le temps de tout lire, Paul est en train d'énumérer à qui le Seigneur est apparu après sa résurrection. Là, il énumère une longue liste de personnes à qui le Seigneur est apparu. Puis là, il arrive au verset 8, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Ce que Paul est en train de dire, c'est intéressant parce que dans son grand chapitre théologique sur la résurrection d'1 Corinthiens 15, il y a une sorte de petite parenthèse, versets 8, 9, 10, où Paul ouvre son cœur un peu puis ses états d'âme un peu. Puis Paul, quand il dit ça, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton », c'est comme s'il disait au fond, « J'ai perdu beaucoup de temps et d'autres m'ont devancé. » Mais ce que j'aime de Paul, il ne reste pas jamais au verset 8. Regardez le verset 10. Il est capable de continuer et d'ajouter au milieu du verset 10, « J'ai travaillé plus que tous. J'ai beau être venu tard, j'ai beau avoir eu cette apparition après eux tous, j'ai travaillé plus que tous. » Il n'est pas en train de répéter les bretelles d'une manière orgueilleuse, parce que regardez la suite du verset. « Non pas moi toutefois qui ai travaillé comme ça, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alors voilà l'argument, voilà la façon de traiter la question des regrets d'un point de vue du gros bon sens. Hein? Être misérable au présent, ça ne donne rien. Je ne peux pas changer de passé. Je scrape mon présent. Si j'ai scrapé tant de choses dans ma vie, si j'ai tant de choses à regretter, arrêtons puis fonçons. C'est ça un petit peu le gros bon sens. Alors ça, c'est un argumentaire déjà qui serait suffisant de dire, ben, ça nous fait du bien d'entendre parler de regrets, puis que ça ne donne rien de regretter, puis de rester jamais avec notre passé. Mais on va aller au-delà de ça, parce que je l'ai dit tantôt, le chrétien n'est pas moins que l'inconverti, il est plus. On a le gros bon sens qui réfléchit de la même façon. Oui, on devrait avoir cette sagesse commune à l'incroyant pour réfléchir ces mêmes pensées-là, mais il y a quelque chose de plus, et on a quelque chose de plus en addition comme chrétien. Et c'est là qu'on arrive à la déclaration du grand apôtre Paul et à l'enseignement de notre Seigneur dans la parabole des ouvriers dans Matthieu 20. Et on va prendre les quelques minutes qui nous restent pour regarder ce que l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 15. On a vu ce qu'il avait à dire à propos du grand péché dans sa vie, puis on va trouver aussi la même chose avec ce problème, mais quand il dit « J'ai persécuté l'Église de Dieu », hein, à la fin du verset 9. Alors, dans les versets 5 à 7, on voit que là, bon, Paul raconte que oui, il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu, le Seigneur ressuscité à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts, évidemment, au moment que c'est écrit. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, etc. Puis là, il arrive au verset 8. Après, toute cette gang-là, il m'est apparu. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Darby dira qu'il a été vu aussi de moi. Maintenant, l'apôtre regrettait sans aucun doute qu'il était venu tardivement dans la vie chrétienne. Soyons clairs au sujet de ce qu'il veut dire quand il est dit après eux tous. Il veut dire qu'il était le dernier des apôtres à voir le Seigneur ressuscité. Mais non seulement était-il le dernier des apôtres, je ne sais pas si vous avez réalisé que Paul était littéralement la dernière personne de toutes les personnes à avoir vu le Seigneur ressuscité. Réalisons-nous ce matin que Paul fut le dernier à voir le Seigneur ressuscité. Depuis ce temps-là, personne n'a vu le Seigneur ressuscité. Il était vraiment le dernier des derniers. Personne n'a vu le Seigneur ressuscité de ses propres yeux depuis que l'apôtre Paul l'a vu sur le chemin de Damas. Quelle apparition du Seigneur! Quelle conversion! Alors, au verset 6, on apprend qu'il s'est montré à plus de 500 frères à la fois. On ne connaît même pas leur nom, mais il s'est montré à eux, le Seigneur ressuscité, et à ces différents témoins qui sont mentionnés là. Ce qui est arrivé sur le chemin de Damas, ce n'était pas que Paul avait une vision. Beaucoup ont eu des visions depuis, mais il a littéralement vu le Seigneur de gloire. Il faut faire la distinction. Paul, ou Saul de Tarse à ce moment-là, a littéralement vu. Ce n'est pas une vision là, quelconque. Il a vu le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il m'est aussi apparu à moi. C'est d'ailleurs ce qui fait de Paul un apôtre, parce que c'était le critère d'être un témoin du fait de la résurrection de Christ. Mais la chose sur laquelle il met l'emphase ici, c'est intéressant, c'est qu'il était le dernier de tous. C'est ça qui est intéressant de voir dans le propos de Paul. Et pas content de ça, il va dire même, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Puis ça, c'est une expression qui m'a toujours fatigué, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Verset 8, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Qu'est-ce que Paul veut dire par cette expression-là? Comme à l'avorton. C'est un terme qui désigne habituellement un avortement, une fausse couche, une naissance prématurée ou retardée, une vie incapable de subsister par elle-même. Mais dans le contexte, Paul utilise le terme avorton pour décrire le fait qu'il est né spirituellement au mauvais moment, arrivant trop tard pour faire partie des 12. Il y avait quelque chose d'anormal dans sa naissance spirituelle. de contre-nature, de déphasé. Paul n'était pas comme les autres. Les autres, en plus qui ont vu le Seigneur ressusciter avant lui, les autres, ces mêmes autres-là, quand on parle des 12 apôtres, eux avaient écouté l'enseignement du Seigneur au quotidien, pas Paul. Eux avaient été avec lui tout au long, être témoin privilégié de ses œuvres, de ses paroles, de ses larmes. Eux avaient été avec lui jusque sur la route menant à Golgotha. Eux, ils l'ont vu être enseveli. Puis, en plus, une fois ressuscité, eux ont été avec le Seigneur ressuscité pendant 40 jours, pas Paul. Ils ont été avec lui à l'ascension, ils l'ont vu monter, pas Paul. Ils étaient avec lui dès le commencement, puis jusqu'à la fin. Paul, au contraire, a une sorte de naissance anormale, déphasée par rapport aux autres apôtres. Puis en plus, il est venu d'une drôle de façon. Chemin de Damas, ça claquait. Après eux tous, en plus. Alors, c'est ce que Paul dit de lui-même. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton, comme quelqu'un qui est arrivé sur le tort. J'aurais dû naître au bon moment avec la haute gang. Je suis né tard. Et évidemment, elle ne pouvait penser à ça qu'avec regret. J'aurais donc aimé ça être avec les 12. J'aurais donc aimé ça être sauvé avant ça. J'aurais donc aimé ça vivre ce qu'ils ont vécu. J'aurais dû être inclus au commencement. Puis Paul avait eu les occasions, les opportunités. On peut-tu s'entendre que Paul savait un peu ce que c'était l'Évangile? Il la détruisait. Il a haï l'Évangile au lieu de l'accepter. Dans Acte 26, 9, sans tourner, il dira ceci, je prends la version plus littérale d'Arby. « Pour moi donc, Paul va dire ceci, j'ai pensé en moi-même qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus, le Nazaréen. » Il était obsédé à détruire l'Église de Dieu. Il était obsédé à faire mourir des chrétiens. C'était ça, Paul. Il voyait Jésus même comme un blasphémateur. Il a essayé d'exterminer ses disciples d'Église. Voilà qu'il était dehors, mais tous les autres étaient déjà dedans le royaume. Les apôtres, c'était les ouvriers des premières heures. Lui, c'était. Il est arrivé à la 11e heure. Paul. Mais, dit-il, après eux tous et de cette étrange façon, il est entré dans le royaume. Gloire à Dieu. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce matin comment ça aurait pu être facile pour Paul. Comment ça aurait pu être facile pour Paul de passer le reste de sa vie dans les 20 regrets sur son passé. Regardez ces expressions, ça veut tout dire. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Il savait très bien qu'il avait manqué tellement d'opportunités de venir au Seigneur avant. Regardez le verset 9, là, c'est quand même, là, tu sais, le gars, il se flagelle pas mal quand il dit « Je suis le moindre des apôtres. » Puis même, il va aller plus loin, il y a une autre coche de plus, il va dire, je suis même pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est très bien ce qu'il a fait dans le passé. Puis il va le dire, il va préciser à la fin du verset 9, pourquoi il se sent le moindre des apôtres, qu'il ne se sent pas digne d'être appelé apôtre? Parce qu'il dit-il, j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai persécuté cette même Église dans laquelle j'appartiens maintenant. Il y avait-tu de la matière à regret, Paul, là? Imaginez, il se convertit, chemin de Damas, paf! Là, il réalise, qu'est-ce que j'ai fait là quand j'ai approuvé le meurtre d'Étienne?
quand j'ai couru après telle famille, tel village, telle ville pour détruire l'Église de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait là?
Y avait-tu de la matière à regret, Paul? Je pense que c'est le gars qui avait le plus de matière à regret sur la terre. Une fois qu'il est converti, il réalise qu'est-ce que j'ai fait là? Non seulement il n'était pas indifférent à Christ, il l'haïssait. Et vous savez quoi? Tout ça était parfaitement vrai. Paul, comme nous aujourd'hui, on ne peut pas nier notre passé. Les faits sont là. Les actes que j'ai commis, les choses que j'ai faites, mal faites, les péchés que j'ai faits, sont là. Je ne peux pas les nier. Puis Paul ne pouvait pas tout à coup dire, mais non, ce n'est pas vrai ce que j'ai fait. Non, il savait ce, au contraire, il savait très bien ce qu'il avait fait. J'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est pour ça que je suis le moindre des moindres. Et il l'a amèrement regretté, ça, ce qu'il a fait dans le passé. Mais la leçon qu'on doit retenir de Paul ce matin, c'est que ses regrets légitimes ne l'ont pas paralysé. Il n'a pas passé le reste de sa vie assis dans son coin à dire « Je suis le dernier à être entré dans le royaume par rapport à ces 12 apôtres-là. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait tant de meurtres? J'ai supporté, encouragé tant de meurtres, persécuté tant l'Église de Dieu? Pourquoi j'ai tellement haï Jésus-Christ? » Que tout à coup, il s'est révélé à moi, il est apparu sur le chemin de Damas, c'est fantastique. Hein? Dans ces épîtres, on va dire toute chose est devenue une perte quand il a connu Christ. Même chose pour nous quand on connaît le Seigneur. Rien d'important d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il aurait passé sa vie à dire comment ai-je pu faire pour le rejeter, l'haïr tant que ça. Et remarquez-vous que ceux qui souffrent de dépression spirituelle, c'est ce qu'ils font. Ils enferme dans un coin, s'éloigne, puis s'isole, puis pauvre, pauvre de moi, puis là, je dis. Mais Paul n'a pas fait ça. Et ça, c'est merveilleux. C'est la leçon qu'on doit retenir avec nos propres regrets, parce que je fais un tour de salle, à moins que vous êtes jeune, vous n'avez aucun regret jusqu'à date. Je pense qu'on a toute une liste de regrets. Puis ce matin, le message que le Seigneur nous donne à travers Paul, c'est qu'on ne doit pas se laisser paralyser par les regrets du passé, sur la base du gros bon sens, comme on l'a vu, mais sur la base des Écritures aussi. Paul n'est pas resté au verset 8 et 9. Ce qui a frappé Paul, c'est la grâce incroyable de Dieu à son endroit. Regardez le verset 10. Une fois qu'il dit ça au verset 8 et 9, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Merci Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Puis on a parlé ce matin de la grâce dans le repas du Seigneur. Sa grâce, regardez, il y a le verset 10 en passant, vous allez voir beaucoup de mots grâce. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Non seulement Paul n'a pas été paralysé par ses regrets, qui était énorme, potentiellement. Mais la grâce qu'il a reçue de Dieu ce jour-là, le chemin de Damas, l'a fait en sorte d'accélérer. OK, maintenant je suis sauvé, maintenant j'appartiens. C'est sûr que je ne peux pas refaire le passé, je ne peux pas défaire le mal que j'ai fait aux chrétiens, je ne peux pas défaire le mal ici, de ça. Mais maintenant, regardez ce qu'il fait. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Même si les autres apôtres l'avaient devancé chronologiquement dans la foi. Puis regardez les épîtres qu'on a, les épîtres de Paul. Quel héritage qu'il nous a laissé. Quand on regarde les actes des apôtres, c'est les actes de Paul. C'est surpris, hein? Tu comprends, c'est le temps perdu, je pense. Hein? Incroyable. Fantastique. Et j'ai travaillé plus qu'eux tous, mais encore là, c'est pas pour se péter bretelles. Non, pas moi toutefois, mais pour la troisième fois, il va utiliser le mot « grâce ». Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et c'est ce qu'on a de plus que l'inconverti. L'inconverti aura le gros bon sens pour s'en tirer avec les regrets, mais nous autres, on a la grâce de Dieu. Et nos péchés passés, présents, futurs sont tous pardonnés à la croix du Calvaire. Ça, mon ami, c'est mieux qu'une thérapie. Et c'est ce qui a frappé Paul, la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il n'en est pas resté à ses regrets du verset 8 et 9. Hein. Je suis rentré après eux tous, puis je suis le moindre, puis je ne mérite pas d'eux. Il est entré dans la nouvelle vie avec un zèle énorme. Et quoi qu'il fût le dernier de tous, dans un sens, il est devenu quoi? Le premier. Parabole des ouvriers. Quel enseignement, maintenant, peut-on tirer de tout ça? Il est midi moins 10. Si un jour vous voulez avoir la suite, ben, je ne vais pas forcer une réinvitation, mais il y aurait quand même beaucoup de matière à aller voir avec l'apôtre Paul. Puis... Mais déjà, je pense, avec ce qu'on a vu ce matin, que le Seigneur puisse utiliser ça ce matin pour nous éviter de rester pogné avec le passé, pour ne pas devenir des nostalgieux, paralysés, mais des chrétiens qui sont bel et bien vivants par la grâce de Dieu, puis qui, dès aujourd'hui, on est en 2013, mois de juillet, on va en avant. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour le témoignage de Paul, merci pour la parabole des ouvriers qu'on a touché, abordé légèrement, Seigneur, qui nous parle de ces ouvriers de la dernière heure. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir fait rentrer dans le royaume, même si j'ai longtemps résisté, même si ma vie elle est contraire à ma confession. Père, merci de ta grâce. Une grâce qui a éclaté à la croix du calvaire, où le mal a été changé en bien. Et c'est vraiment une croix qui nous humilie, Seigneur. Personne ne peut se péter bretelle au pied de la croix. Parce qu'on méritait d'être sur cette croix à cause de nos péchés, puis de tout payer, pas les péchés passés, présents, futurs. Et Seigneur, s'il y a des gens dans la salle, de tes enfants, qui justement ont de la misère avec ce qu'ils ont vécu dans le passé, Père, on est conscient que Satan aime ça, nous enfarger avec ça. Mais Père, délivre-les de ça, Seigneur. Fais que le peuple de Dieu en 2013 marche de l'avant. Quelles que soient les choses qu'on a vécues à titre personnel, familial, église, on marche en nouveauté de vie. Et Seigneur, Paul a vraiment compensé avec les années qui lui ont resté. On veut faire de même pour nous aussi. Puis je prie pour la jeunesse, Seigneur, ici, à Cap-de-Madeleine. Une jeunesse qui est confrontée aux mêmes tactiques du diable aussi, de séduction, de plaisir. Et Père, je veux tellement leur éviter des regrets pour plus tard, Seigneur, à cette jeunesse. Que ce matin, parle dans leur cœur, puis justement, apparaît à eux. Donne-leur une vision de ta personne, de ce que tu as fait pour eux. Un Pierre nous exhorte justement à marcher, sachant à quel point on était racheté, au prix du sang précieux de Christ. Et ça, c'est notre motivation pour marcher, avoir une saine conduite jusqu'à la fin. Sachant que ça a coûté tellement cher de nous arracher de ce monde, puis c'est une folie de retourner dans le monde. Père, on te prie de mettre ta main sur quiconque ce matin qui a besoin, particulièrement de ta main. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.